la dispute. Ce soir, la musique. Cette émission est préparée par Justine Dibding, Virginie Ledio, Boris Spino, prise de son assurée ce soir par Jean-Louis Deloncle, réalisation Daniel Finot. Et ce soir, Marie Audroux et Emmanuel Giuliani se font face à notre affiche. Deux DVD, Moïse et Aaron de Schoenberg, dirigé par Philippe Jordan, mise en scène Roméo Castellucci en DVD et Blu-ray chez Bel Air, c'est enregistré à l'Opéra Bastille. Le deuxième DVD, c'est Mithridate de Mozart, dirigé par Emmanuel Haïm, mise en scène Clément Hervieux-Léger, DVD chez Erato, enregistré lui au Théâtre des Champs-Élysées. Puis il y aura un double CD à notre sommaire, Debussy, l'enfant prodigue, et Ravel, l'enfant et les sortilèges, dirigé par Mico Franck chez Erato. Vers 21h20, Xavier Martini nous entraînera dans le petit salon pour passer avec lui le bac musique. Et puis, bien sûr, encore des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des invitations pour le spectacle Icon de Sidi Larbi Cherkaoui, le 31 mai à 20h30 à La Villette, à Paris. Et nous ouvrons cette émission avec la production qui, elle, a ouvert la direction de Stéphane Lissner à l'Opéra de Paris en octobre 2015. Il s'agit de Moses und Aaron de Schoenberg, dirigé donc par Philippe Jordan dans la mise en scène de Roméo Castellucci, production dont on voit une partie du travail d'ailleurs dans le très beau film de Jean-Stéphane Bron, l'Opéra, qui continue à rencontrer un très bel accueil en salle. On peut désormais voir cette production DVD et Blu-ray chez Bel Air Classique dans une réalisation de François-René Martin. Rappelons que cet opéra inachevé en trois actes d'Arnold Schoenberg sur un livret en allemand du compositeur est tiré du livre biblique de l'Exode et a été créé en 1954, trois ans après la mort du compositeur. On en écoute tout de suite un extrait. Voilà pour cet extrait de Moses und Aaron. On revient alors d'abord quand même sur cette production, on parlera peut-être du DVD en tant que tel dans un instant. Emmanuel Giuliani, quel
oui,
souvenir
alors, en effet, c'est une production qui avait beaucoup fait parler d'elle à juste titre, parce que comme vous l'avez dit, c'était donc une affiche très emblématique pour la nouvelle direction de l'opéra, donc c'est le spectacle inaugural de Stéphane Lissner, si je ne me trompe pas.
C'est voilà. Ce que je me suis permis de rappeler
absolument.
Tout à l'heure.
Absolument. Donc je ne me trompe pas, et vous non plus. Et puis, donc, la mise en scène de Romeo Castellucci, le directeur musical de la maison, Philippe Jordan. Un travail, vous citiez le film de Jean-Stéphane Bron, en effet, qui met bien l'accent là-dessus. Et Philippe Jordan le fait aussi dans le livret de ce DVD. Un travail des forces musicales de l'Opéra de Paris, et notamment du chœur de l'Opéra de Paris, absolument impressionnant. Plus d'un an, enfin, parce que, évidemment, c'est une partition extrêmement complexe à mettre en place. Donc tout ça réunissait et suscitait une attente qui avait dans l'ensemble, même s'il, j'ai plus de souvenirs absolument précis en détail, ça avait été plutôt bien accueilli, même très bien accueilli. Je pense que si l'on espérait un spectacle absolument génial, bouleversant, on était un tout petit peu en deçà. Donc il y avait une petite frustration, mais quand même c'était un acte fort, d'abord de programmer cette œuvre et d'autre part de la confier pour la partie scénique et on peut dire pour la performance visuelle à Romeo Castellucci.
Bien accueilli, je vais le dire, même par vous, Emmanuel Giuliani.
Pourquoi alors, même par moi
c'est pour vous titiller.
Oui, bien sûr.
Parce que c'est vrai qu'il y a des mises en scène parfois qui sont, on va dire, très contemporaines, avec des visions très, très auteuristes que vous goûtez plus ou moins.
C'est vrai.
Concernant Romeo Castellucci, voilà, ça pouvait tomber d'un côté ou l'autre.
Alors, c'est vrai, il faut le dire, sauf certains grands spécialistes dont je ne suis pas, c'est que peut-être le degré de tolérance et de volonté d'être bousculé et surprise dans Moïse et Aaron est plus forte que dans Les Noces de Figaro ou La Traviata. Voilà, donc ça, il y a d'abord ce fait-là. D'autre part, parce que sur la scène immense de la Bastille et à recevoir en tant que spectateur dans la salle immense de la Bastille, une telle production qui a un impact visuel, qui joue à la fois sur des signes et des atmosphères. C'est peut-être là-dessus qu'on pourra revenir éventuellement à propos du filmage et du DVD. Évidemment, le spectateur en prend plein les yeux, plein l'esprit et plein le cœur. Donc, de toute façon, c'était en effet impressionnant. Et à la limite, les écoles auxquelles vous faisiez allusion, elles tombent un peu face à un impact visuel certain. Après, dans le détail, on peut se poser des questions, etc.
Des choix forts. Marie Audreau.
Je dirais qu'il y avait presque une sorte de virginité dans la réception qu'on allait avoir de l'œuvre, puisque il y avait tout ce dont Emmanuel a parlé, ces forces vives en présence, le fait de recevoir une œuvre qui avait aussi un signifiant très très fort, qui n'avait pas été donné depuis 40 ans, si je m'abuse, à l'Opéra de Paris. Donc tout ça, et puis bon, aussi la nouvelle direction d'opéra. Enfin, c'était entouré d'un énorme impact, en fait, au niveau de l'impression, impressionnant, quelque chose de très impressionnant. Alors après, moi, j'ai fait partie des personnes qui, Emmanuel parlait de l'en deçà tout à l'heure, ont été quand même assez déçues, notamment par toute la partie, le côté très antagonique, un petit peu manichéen, le parti pris manichéen de Castellucci, d'un côté l'idée, avec sa pureté, le blanc, etc. Puis de l'autre côté, la parole qui salit tout, etc. C'est que ce côté très manichéen, moi, quelque chose qui m'a un petit peu gênée, parce que j'aurais préféré un petit peu plus de dialectique. Je dis pas que la dialectique existe dans la musique de Schoenberg, mais un grand visionnaire tel que Castellucci peut l'être, aurait pu peut-être aller plus loin dans, justement, même s'il y a des images magnifiques, tout le début, cette espèce de brume létale dans lesquelles les choses, cette espèce de début de création du monde, c'est quelque chose de tout à fait magnifique. Là, la fin aussi, j'ai beaucoup aimé la fin, avec ces espèces d'alpinistes qui essayent de grimper vers la pureté de l'idée et qui retombent au sol qui sont affalés comme des voiles. Ça, c'était très, très beau. Mais je dois dire que toute la partie, justement, où le peuple élu, ayant refusé le nouveau dieu qu'on lui a proposé, veut revenir aux idoles, et là, c'est là où Aaron, effectivement, a toute sa place, puisque lui, c'est le dialecticien, c'est l'homme de la parole, et où tout le monde se retrouve finalement dans un immense baril de pétrole. Enfin, bon, c'est un côté un peu goudron et des plumes, comme dans le Far West.
Ouais, ils sont tous de blanc vêtus, et puis traversent
une espèce de piscine.
Ce souterrain piscine qui les fait ressortir noir.
Voilà. Donc, toutes ces choses-là, je les ai trouvées un petit peu longues et un petit peu, le mot manichéen me vient.
Et en même temps, c'est pas un ouvrage absolument facile à mettre en scène, quand on est dans le domaine absolument des idées. On avait vu aussi avec Le Triomphe du Temps et du Destin, dans la version de Christophe Baïkowski à Aix, quand on doit mettre en scène des concepts, mm-hmm. c'est toujours une grande difficulté. Cassellucci faisait image et, oui. et donnait quand même aussi du sens, parce que rappelons qu'il y avait donc sur toute la première partie ce grand tulle blanc qui nimbait effectivement tous les personnages et le cœur dans cette brume des origines, comme vous le disiez à l'instant, mais sur lesquels était projetée une série de mots comme ça qui défilaient de plus en plus vite.
La vanité du mot. Hein,
la vanité du mot, mm-hmm. absolument, mais qui donnait comme ça des sortes d'éclairs de pensée aussi aux spectateurs que nous sommes, parce que chacun on s'arrêtait sur tel ou tel mot. Enfin, il jouait quand même beaucoup avec nous, Roméo Castellucci. Moi, j'ai un souvenir quand même assez éblouissant. Peut-être, du coup, on peut parler du DVD, parce que beaucoup de gens vont le découvrir ainsi, c'est tant mieux. Moi, je suis très heureux que cette production puisse être visible en DVD, parce que c'est vraiment presque Mission Impossible, on en parle souvent, comment filmer les opéras. Et ici, il me semble que vraiment il y a une grande intelligence. Je crois que François-René Martin, d'ailleurs, s'est précisé au début qu'ils se sont mis d'accord avec Roméo Castellucci. Alors, il propose un format d'image de 2:20, c'est-à-dire que toute la partie basse de l'écran est noire pour que viennent s'y inscrire les sous-titres. Et donc, c'était un peu étrange comme ça au départ, mais pour préserver absolument la pureté de l'image, et je trouve que c'est une idée extrêmement judicieuse. Et puis, il y a surtout le fait que François-René Martin privilégie les plans très larges, qui nous redonnent un peu la sensation du spectateur depuis la salle. Vraiment très peu de plans rapprochés, alors qui gâchent rien. L'effet de tulle du premier acte, je trouve, est encore plus beau à l'image que ce qu'on pouvait avoir comme sensation dans la salle. Moi, j'étais très impressionné par la qualité de réalisation.
Il y a des effets d'hologramme même quasiment par moment. Hein. La scène n'existe plus. Et c'est ce que fait disparaître le DVD, c'est le cadre de scène et c'est la salle dans laquelle nous étions. Alors, à contrario, on peut dire aussi qu'on perd quand même là, du coup, de la direction d'acteur.
Ouais.
C'est parce que effectivement les plans larges mais flottants ne permettent pas toujours de voir les interactions entre le cœur, les personnages, etc.
C'est sûr.
Voilà, donc c'est là, mais bon, on sait bien que le DVD redécoupe les choses.
Oui, on en parlera tout à l'heure pour Mithridate, parce que ce sont des réalisations absolument à l'opposé, on pourrait dire.
Mais François-René Martin a suivi vraiment depuis le tout début du travail. Il a vraiment,
et ça se sent,
il s'est complètement immergé dans l'œuvre et dans le travail de Castellucci et des musiciens. Il était là tout le temps. Effectivement, ça se sent, il y a une intelligence de la réception de l'œuvre qui est assez remarquable.
Parce qu'on peut passer son temps
certains gros plans, par exemple, on voit que le taureau rumine, alors on se dit merde, c'est le veau d'or.
On se dit quoi, pardon?
Il est en train de ruminer, et après on s'aperçoit que son soigneur a un chewing-gum dans la bouche et rumine aussi. Donc on se dit, ça, c'est des toutes petites choses qui sont assez amusantes. C'est comme Trump avec la main de
Mélania.
Mélania, il y a des petites choses un peu rigolotes.
À la pointe de l'actualité, toujours, Mario Drou. Je vois l'analogie formidable entre Mélania Trump et le taureau. Easy Rider.
Trump et le taureau. Enfin, je sais pas.
Oui, voilà, bien compris. Emmanuel Giuliani, sur la réalisation de ce DVD.
Oui, eh bien, écoutez, je n'ai pas grand chose à ajouter, sinon qu'il y a aussi, dans cette réalisation, visuellement, une très grande réussite à capter donc cette espèce d'ambiance, et on parlait de ce brouillard, on avait vraiment l'impression qu'il arrivait vers nous, qu'il nous enveloppait nous aussi, et ce qui fait que cette émergence du goudron ou du pétrole noir, en réalité, moi je trouve, contrairement à vous, Marie-Aude, qu'elle était assez saisissante et elle le reste. Le problème, c'est la durée. Voilà. Et là, ce qui est très compliqué, et finalement, je vais peut-être pousser le bouchon un peu loin, ce que François-René Martin réussit peut-être mieux que Roméo Castellucci, c'est apprivoiser le temps de cette musique et à réussir, quand on se dit oh là là, dans nos souvenirs là c'était un brin longuet, mais il trouve des moyens pas brutaux du tout mais extrêmement souples et très musicaux de nous faire avancer dans l'action, si tant est qu'on puisse appeler ça une action, ce que évidemment la mise en scène pouvait moins bien faire puisqu'on était
ça c'est très très juste, la succession des danses par exemple et l'orgie qui était très longue là du coup avec les gros plans notamment sur les danseurs, c'est magnifique le travail sur les danseurs, il y a du gros plan, enfin du plan rapproché, tout à fait justifié, je suis tout à fait d'accord avec Emmanuel.
Il donne une espèce de dramatisation sans en faire trop et sans tordre l'œuvre, qui est vraiment très très très, très, très impressionnante. Et c'est vrai que souvent, on a des réserves sur la manière dont sont filmés les opéras ou les pièces de théâtre ou les ballets. Et là, vraiment, on tient avec ce travail que François-René Martin fait depuis longtemps et sur des ouvrages extrêmement différents. On sent vraiment une patte artistique qui est à souligner.
J'ai envie de dire, musicien.
Si vous avez envie de le dire,
dites-le,
Marie Audreau.
Mais la musique,
quand même. Non, mais alors justement, le DVD aussi, je ne sais pas sur quel excellent matériel vous avez visionné et donc aussi écouté ce DVD, prise de son, parce qu'il y a cet aspect-là aussi.
Moi,
je trouvais très
équilibré.
Très clair. Enfin, effectivement, la place des chœurs, on le sait, est extrêmement importante. On a entendu un aperçu à l'instant. Moi, il m'a semblé que c'était vraiment très, très, très finement réalisé, là aussi, Marie Audreau.
Oui. Alors, du coup, on entend que le pauvre Aaron a quand même un vibrato.
C'est la grande faiblesse. C'est la grande faiblesse de cette production.
Avec quand même du talent d'acteur, il faut bien le dire, mais c'est voilà, vocalement, on est quand même un tout petit peu.
À écouter les yeux ouverts, on va dire ça comme ça. Non, mais parce que c'est vrai qu'il a une présence qui est quand même très impressionnante. Et puis bon, il y a quand même le travail de Philippe Jordan, c'était impressionnant dans la salle, évidemment, parce que ça poursuit l'histoire d'amour de Philippe Jordan avec son orchestre de l'Opéra de Paris. Moi, j'avais un souvenir de l'avant-dernière note très longuement tenue qui m'avait absolument submergé d'émotions et j'ai pas retrouvé la même qualité d'émotion forcément en DVD, mais on voit le travail, la finesse, la délicatesse, la précision de Philippe Jordan dans cette partition.
Oui, et puis la manière, là on se le disait à l'écoute de l'extrait, dont on ressent une grande unité bien sûr dans cette œuvre, et puis aussi toute la manière dont Schoenberg, avec sa radicalité propre, embrasse et reprend l'histoire de la musique. Là, on évoquait évidemment avec ce chœur le contrepoint d'une fugue de Bach, mais à certains moments, on passe dans des formats et des évocations beaucoup plus populaires. À d'autres moments, on se rend compte à quel point Schoenberg aimait Brahms. Mmh. Alors, tout ça dure un instant, c'est une espèce de contre-champ ici ou là, c'est des flux qui sont en dessous d'autres flux, mais c'est toujours extrêmement impressionnant quand on entend cette œuvre. Et évidemment, l'avantage d'avoir un DVD comme ça quand on est auditeur, c'est que quand on capte quelque chose, on peut se le repasser. Et donc, ça peut être, un instrument de travail d'auditeur.
Bien sûr.
Que l'on soit au départ fan ou plus étranger à cette musique, on se rend compte à quel point, bien sûr, dans ces œuvres très foisonnantes, très, très complexes et à la fois qui ont une véritable force dramatique immense. C'est comme les grandes pièces de Claudel. On se dit, mais il palabre pendant des heures sur des sujets qui sont tellement transcendants qu'on risque de rester tout à fait à l'écart. Mais pas du tout. Il y a un tel sens dramatique. Et ça, vraiment, on peut aller au fond du fond.
Marie Audreau.
Je dirais que l'assimilation du langage par les musiciens, tel qu'il a été fait, donc ce chœur qui a travaillé comme un malade pendant un an et qui a vraiment, pour que la musique soit complètement naturelle, aussi naturelle que si je chantais n'importe quelle œuvre de musique classique, le fait que le travail de Jordan avec les musiciens, aussi avec l'orchestre, qui était extrêmement précis, extrêmement exigeant, tout ça fait que finalement, ce qu'on ressent, c'est une sorte de facilité de cette musique, très très curieusement.
Alors que, en plus,
elle est précédée d'une réputation quand même pas très... justement, au contraire, vous parliez de radicalité, effectivement.
Oui.
Mais Jordan, on sent qu'il a toujours, il a présent à l'esprit toute cette espèce d'alluvion, enfin, tous les alluvions que charrie cette musique et qui, s'ils ne sont pas à la surface, sont quand même là et la génèrent d'une certaine façon. Et ça, il le fait sentir. Mmh. Et ça, je trouve vraiment ça très, très, très intéressant.
Voilà. Bon.
Et l'auditeur, donc voilà, confort. On peut écouter Moïse et Aaron sans se sentir agressé, sans se sentir déstabilisé outre mesure, bien qu'il faille quand même un petit peu de déstabilisation pour accrocher. Mais voilà, on peut recommander à tous les auditeurs de voir ce DVD.
Absolument, ce DVD, on est heureux que les belles productions de l'Opéra de Paris paraissent en DVD. C'est pas si fréquent d'ailleurs, c'est une curiosité de cette maison qui ne sort quand même pas beaucoup de ses propres productions en DVD. Donc là, c'est le cas. DVD et Blu-ray chez Bel Air de ce Moïse et Aaron Schoenberg, dirigé par Philippe Jordan, mise en scène Roméo Castellucci. C'était enregistré en octobre 2015 à l'Opéra Bastille.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
Et à suivre dans La Dispute, Mozart, Debussy et Ravel. pas mal. Avant cela, Xavier Martinet, c'est autre chose, mais qui nous emmène dans le petit salon. Bonsoir, cher Xavier.
Bonsoir, Arnaud.
Ce soir, c'est presque un polar, l'affaire Taillefer.
L'affaire Taillefer du bac au bac, c'est le titre qu'a judicieusement choisi Le Monde pour raconter l'histoire de la résurrection de cet opéra, donc l'affaire Taillefer, écrit et diffusé en 1955, puisque c'est un opéra issu d'une commande publique par Radio France, le RTF à l'époque. Opéra atypique à tout point de vue et une histoire à entrées multiples. Ce sont en fait quatre opéras bouffe pastiches des principaux styles, petite histoire lyrique de l'art français, dit encore un journal, une sorte de panorama de l'opéra français, de Rameau à Charpentier en passant par Offenbach. Et c'est d'abord une aventure pédagogique et historique, puisqu'il a fallu 5 ans pour remonter cet opéra et l'appareil critique qui l'accompagne pour les élèves du bac cette année, qui aura lieu dans quelques jours, grâce notamment au réseau Canopée de l'Éducation nationale qui a produit les vidéos explicatives et au Théâtre de Limoges. Il y a un intérêt doublement patrimonial, donc, puisque c'est aussi un spectacle de la manière dont les années 50 françaises percevaient leurs histoires, leur histoire plutôt et leur partition, époque de grande création de répertoire par Radio France, je l'ai dit. Alors pour les besoins pédagogiques, l'œuvre plutôt lacunaire a été adaptée avec l'introduction de personnages extérieurs, par exemple comme un chroniqueur judiciaire qui vient présenter les différents opéras et moments de l'histoire musicale. Je précise que Germaine Taillefer était de l'époque de Poulenc, Satie, Darius Milhaud, membre de ce fameux groupe des six qui était apparenté à Radiguet et qui a pris fin à sa mort. Taillefer était la seule femme compositrice de ce groupe. Quant à la personne, j'ai le souvenir d'une grande dame, admirée, respectée, charmante, aux manières très douces, disait Claudine Collard, qui était une chanteuse de l'époque. Alors ces opéras sont la fille d'opéra dans le style baroque et pointé hein, de Rameau, mais aussi il y a des parties de récitatif à la Gluck, dit le chef d'orchestre Christophe Rousset. Ensuite vient le bel ambitieux dans le style de Rossini, puis la pauvre génie dans le style de Charpentier, quelques vers, pauvre et laborieuse fille de Paris, d'un rond de saucisson je me nourris, que je vais la journée est fini, manger sur un banc. Je chante assez mal, mais voilà, pour le dernier opéra, c'est un clone d'Offenbach, littéralement. Monsieur Petit Pois achète un château avec bourgeois, grisette et militaire. Cet exercice a en tout cas le mérite de montrer l'écriture et la préparation d'un opéra. C'est parfois émouvant. On y voit le chef d'orchestre, le directeur de l'opéra théâtre, l'éditeur, mais aussi les techniciens, les régisseurs, les graveurs de copies. On apprend qu'il y a des tops, comme en Voltige aérienne, mais aussi des extraits. On peut voir des extraits de partitions dynamiques ou d'époque, parfois comparés, des tableaux qui sont relatifs, encore une fois, à l'histoire de l'époque. À Limoges, d'ailleurs, où a été remonté l'opéra en 2014, on peut constater que tous les arts simples et efficaces de la mise en scène de plateau sont utilisés. Décors semi-monumentaux, chanteurs suspendus, lumière simple et efficace encore une fois, costumes également, trois pièces ouvertes, et puis on se dénude au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire, hommes en bermuda, slip et perruque et banilon visible, simple et efficace, comme les directives de la metteur en scène Marie-Ève Seignerol, tu vois l'homme que tu aimes dans la cage, tu peux lui jeter un regard. Voilà, donc c'est aussi un aperçu de la science de la musique française, mise en œuvre par Germaine Taillefer. Christophe Rousset, le chef d'orchestre, raconte à ce propos, si vous écoutez les opéras de Germaine Taillefer, vous voyez vraiment une science, ce n'est pas juste qu'est-ce que je vais faire de ma flûte, comment je vais colorer cet instrument-là. Il y a vraiment une volonté de couleur extrêmement développée et qui est très typique de l'école début 20e française. Alors que pensez-vous d'une part de cet effort pédagogique aujourd'hui et puis quelle place donnez-vous à Germaine Taillefer ?
Alors, je ne sais pas si vous chantez mal, hein, parce que vous n'avez pas chanté en fait, hein, Xavier. Donc vous nous chanterez quelque chose la prochaine fois, vous avez récité. À moins d'avoir mal entendu cette affaire Taillefer, moi ce qui me semblait aussi important et intéressant, c'est que pour qu'elle soit au programme du bac, il fallait que les élèves aient du matériel et que c'était pour ça notamment qu'il y avait eu cette production à Angers, et je trouve ça assez incroyable qu'on se dise bon, offrons du matériau à nos chères têtes blondes, brunes, rousses, pas chauves à cet âge-là, on le souhaite, toute tête possible, l'affaire Taillefer. Emmanuel Giuliani.
En espérant, comme dans tous ces travaux d'exhumation de répertoire, que si l'œuvre en vaut la peine, elle peut après entrer, sinon au grand répertoire et être donnée dans tous les théâtres à chaque saison, mais en tous les cas retrouver ou trouver une vitesse de croisière. Donc c'est vrai que c'est une bonne idée. Après, ce qui est aussi amusant et emblématique dans cet ouvrage, que j'avoue, je n'ai jamais entendu, parce que je n'ai pas vu cette
Mario
production.
Non plus.
Et je suis un tout petit peu trop âgée pour passer le bac, mais voilà, dommage. C'est d'avoir évidemment une œuvre autour de l'histoire de l'opéra, du théâtre dans le théâtre, alors que ce soit depuis le directeur de théâtre de Mozart. Il va bientôt y avoir Viva la Mama de Donizetti à Lyon, qui est aussi une histoire de théâtre dans le théâtre. Donc c'est toujours évidemment très plaisant, très jubilatoire. C'est mis en abîme pleine d'humour et pleine d'esprit d'un art qui parle de lui-même, qui sait trouver une manière très plaisante de pointer ses travers, ses excès et au contraire ses merveilles. Après, ce que j'espère aussi, mais ça c'est plus globalement sur les épreuves du bac musique, je ne sais pas s'il y a des études qui mesurent l'impact et la familiarité des jeunes gens qui ont passé le bac et qui ont, quand on prend cette option musique en général, c'est parce que on pratique soi-même et qu'on aime cet art, mais quels sont après, comment on vit avec ces œuvres qu'on a dû travailler et étudier et présenter un peu tremblant devant un examinateur au moment du bac? Est-ce qu'elles prennent une place particulière dans votre propre panthéon d'auditeurs? Ça, c'est une question que je me pose. Mais
bon, ça, on ne va pas avoir la réponse ce soir, mais on peut lancer l'appel pour que nos auditrices et auditeurs y répondent. Marie Audreau sur Jeanne Van Payfair.
Moi, je salue la personne un petit peu déjantée qui a eu cette idée, parce que c'est vrai que ce n'est pas du tout évident d'aller chercher Jeanne Van Payfair. Effectivement, parliez du groupe des six, c'est un nom dans le groupe des six, bien souvent. Il y a peut-être une ou deux œuvres insérées dans des grands cursus de musique de chambre parfois, et encore, je n'en suis pas sûre. Pour ma part, je ne suis même pas sûre d'avoir entendu une seule note
carrément.
De Jeanne Van Payfair.
Ah oui, c'est à ce point-là.
Oui, absolument. Oui, oui, oui.
Alors, en concert, on ne la joue jamais.
On ne la joue jamais en concert. Donc, honneur à cet esprit dérangé, mais néanmoins très, très
plein
intelligent.
Plein de curiosité
qui a. Et puis, effectivement, pour une fois que l'éducation nationale suscite une réalisation artistique, c'est pas toujours dans l'autre sens. J'ai envie de dire, tant mieux. Après, comme dit Emmanuel, tout ça est à prendre avec des pincettes. Mais
aussi à Christophe Rousset dans l'affaire, c'est quand même un bon
oui,
gage
voilà,
aussi.
Voilà. Hein,
c'est quand même de grands chefs.
S'entourer de personnes qui
font ça sérieusement.
De premier plan.
Exactement.
C'est ce qui est aussi tout à fait réjouissant. Xavier Martinet.
Oui, Christophe Rousset qui avait l'air d'y croire d'ailleurs, pas seulement pour les besoins de la vidéo. Pour lui, il disait que par exemple dans l'opérette qui est le pastiche d'Offenbach, qu'est-ce qu'il disait? On entend Offenbach complètement à s'y tromper. Et c'est vrai que pour l'avoir entendu, là, on peut voir les vidéos sur le site du réseau Canopée, c'est assez intéressant, c'est complètement bluffant même. Si on compare à Rameau, là, avec effectivement ce style très pointé, peut-être que la différence est plus marquée, ou en tout cas l'écart est plus marqué, mais pour Offenbach, on a l'impression d'un copier-coller. Donc, il y avait une forte connaissance de ça, peut-être à cause de la proximité historique. La deuxième chose que je voudrais dire, simplement, c'est effectivement, je trouvais très intéressant que ce soit le fruit d'une commande Radio France, là, en cherchant sur...
ORTF.
Ouais, ORTF à l'époque.
Ah bah oui.
Tout à fait.
Pardon.
Alors, justement, pourquoi Radio France? Parce qu'en cherchant dans les archives Radio France, on voit qu'il y a 149 titres qui sont répertoriés. Sur les sites français, j'ai pas trouvé de répertoire complet. Par contre, il y a un site allemand qui en a 3 pages. C'était vraiment un auteur prolifique.
149 titres de Jeanne Van Payfair?
De Jeanne Van Payfair.
D'accord,
ouais.
J'étais pas tout à fait sûr de.
Vous apportez de l'eau à mon moulin, j'ai un peu envie de dire, c'est quand même dommage, pour le coup, de faire connaître une compositrice en la faisant pasticher des compositeurs qui ont passé d'une certaine façon. Il y a quand même un déni de création.
Savoir ce qu'elle a écrit vraiment.
On n'en sait pas plus sur l'affaire. Enfin, on ne sait pas plus qui est Jeanne.
Non, mais il y avait une volonté patrimoniale à l'époque de la part de Radio France et une volonté aussi, quand même, de produire un certain nombre d'œuvres pour la postérité avec un certain nombre un pool de chanteurs attitrés, plus qu'un pool même. Je crois que c'était des dizaines de personnes, dont Claudine Collard, qui disait, si je me rappelle bien, qu'elle avait, je crois, chanté dans 400 œuvres produites pour l'ORTF.
Ah oui, d'accord.
C'est pas mal non plus.
Oui, on va parler de Radio France pour le coup. Et de sa production musicale tout à l'heure. Ce sera le troisième sujet de notre dispute. Mais alors oui, il faudrait écouter du Jermaine Taillefer, du vrai Jermaine Taillefer. Peut-être que cette commande...
Donc il y a une deuxième affaire.
Il y a une deuxième affaire, Taillefer.
L'affaire sous l'affaire.
Voilà.
Bon, on va réviser nos classiques et peut-être attendre un vrai disque d'une œuvre originale de Germaine Taillefer. À suivre donc. Le deuxième opéra et le deuxième DVD à notre affiche ce soir, c'est celui de la production de Mithridate de Mozart, dirigé par Emmanuel Haïm, mise en scène Clément Hervieux-Léger. C'était au Théâtre des Champs-Élysées il y a un peu plus d'un an maintenant. C'est aujourd'hui en DVD chez Erato, dans une réalisation d'Olivier Simonet. Mithridate, opéra seria en trois actes de Mozart, sur un livret de Signa Santi, d'après une pièce de Racine, traduite en italien, bien sûr, créée à Milan, grand succès en 1770, Mozart a 14 ans à l'époque. Évidemment, ça assoit tout à fait sa notoriété, on en reparlera. L'argument est le suivant, le roi Mithridate et ses deux fils aiment la même femme, Aspasie, celle-ci qui doit se marier avec le roi, est en fait amoureuse de Sypharès, l'un des deux fils, tout ça sur fond de menaces d'invasion par l'ennemi romain. On écoute justement un air d'Aspasia. Voilà pour cet extrait de Mithridate tel qu'on a pu l'entendre il y a un peu plus d'un an au Théâtre des Champs-Élysées. Alors revenons tout d'abord sur cette production. Je sortais à l'instant de ma documentation, ce papier de Marie Audroux à l'époque. Malgré ses splendeurs vocales, titré le journal, un Mithridate. Ce Mithridate ne fera pas date. Bon, je montrais le papier de Philippe Venturini qui disait un Mithridate qui fera date dans les Échos. Je sais bien que les titres, on redit à nos auditrices et auditeurs, les titres ne sont pas des journalistes.
Oui.
Bon, ça dit, ça résumait aussi quand même votre pensée.
Oui, ça résume voilà, ma pensée. Et
parce qu'il y a parfois des titres qui ne sont pas toujours respectueux de la pensée.
J'ai envie de dire que la sortie en DVD m'a fait un petit peu changer d'angle.
D'accord.
Parce que justement, toutes les choses qui m'avaient un petit peu, même pas dérangée, je dois dire, mais plutôt lassée, c'est-à-dire faut quand même, ça se passe, l'histoire se passe, enfin, la mise en scène de Clermont-Hervieux-Léger, met en scène une sorte de groupe, on peut dire pourquoi pas de réfugiés, on sait pas trop qui sont ces gens, des gens qui dorment en tout cas dans un palais dévasté.
Et théâtre abandonné.
Voilà, théâtre abandonné, qui se réveille, qui trouve, presque par hasard, un petit classique Larousse, du Mithridate et justement de Racine, et qui, commence à faire, par jeu pratiquement, pas, et puis l'opéra démarre comme ça. Bon, pourquoi pas? C'est une manière comme une autre d'entrer, mais bon, sauf que je trouve que ce genre de procédé a déjà été beaucoup, beaucoup utilisé, que voilà, moi j'avais envie d'autre chose. C'est peut-être, après tout, le spectateur peut aussi parfois avoir envie qu'on lui propose des choses peut-être plus éclatantes, je ne sais pas. En tout cas, toujours est-il que le côté un peu misérabiliste m'avait gêné. Et puis, il se trouve que, évidemment, le DVD prenant finalement chaque chose, non plus dans son ensemble, mais de manière dans les détails, des rapports entre les personnages, des choses qu'on voyait, qu'on apercevait sur la scène, mais que là, vraiment, là dont on est vraiment, vraiment
proche.
Du coup, effectivement, j'ai vu, j'ai pas vu une logique que je n'avais pas décelée, mais il y a des choses qui me sont parues plus... Voilà, plus intéressant, et notamment le rapport après entre les personnages. Une fois que l'opéra est lancé, je dois dire, ça roulait, hein. Il y avait pas de, c'est du beau travail, le travail d'acteur, de direction d'acteur, je le trouve tout à fait intéressant. Bon, en plus, on le dira plus longtemps, mais enfin, dans quelques temps, mais le cast est quand même un magnifique cast. Donc, quand on a des chanteurs comme ça, et qui plus est pour certains des comédiens, c'est vrai que c'est quand même plus facile. Voilà. Donc, pour dire que, à l'époque, pour reprendre la terminologie de notre camarade de tout à l'heure, quand j'avais vu, effectivement, j'étais sortie en me disant bon, oh là là, tout en quand même reconnaissant le génie mozartien et le génie de la distribution aussi, et aussi le travail d'Emmanuel Haïm à la tête de son concert d'Astrée, qui est quand même un très beau travail. Et là, je dois dire que le DVD me fait changer un petit peu d'angle sur le plan de la mise en scène. Donc voilà, comme quoi.
Bah, comme quoi, le DVD, parfois. Emmanuel Giuliani.
Alors, j'avais eu aussi une impression de grande grisaille scénique. Peut-être à cause, en effet, comme vous l'avez dit, de ce procédé qui, une fois lancé, se développe peu, s'épanouit peu. Donc on a l'impression qu'on a compris le propos en quelques minutes, et puis après il va falloir donc accepter de rester sur une même tonalité sans en bouger vraiment. Et puis parce que, après c'est une question de goût personnel, toute la scénographie, les costumes, les décors, tout ça,
scénographie avec Cruff.
Oui, autant j'ai trouvé qu'il y avait de très très belles choses dans le tout récent Péléas et Mélisande que le même Éric Cruff a mis en scène et scénographié au Théâtre des Champs-Élysées, autant là ça me semble être des couleurs poussiéreuses, des costumes passés. Enfin, esthétiquement, j'avais vraiment...
C'était le parti pris. Hein,
voilà, c'était le parti pris.
Ça voulait être poussiéreux.
Mais voilà, il peut y avoir de la poussière vibre, que la lumière fait...
Voilà, les lumières de Bertrand Couder, à mon avis, magnifiaient ce décor.
Donc, j'avais un souvenir d'être sortie de quelque chose un peu pesant et sans beaucoup de respiration. Et comme vous... Parce que les plans rapprochés, alors qui peuvent être un peu antinomiques avec ce qu'on a dit tout à l'heure de ce que l'on aime dans une réalisation d'opéra, mais là, dans cette production, ça en gomme très grande partie
le décor
et donc cet aspect figé, pesant et un peu trop les pieds ancrés dans le sol, et ça montre toutes les expressions des visages et combien de beaux et ou intéressants visages. Toutes les expressions et toute la manière dont, dans cet opéra seria, qui est une succession d'airs, et on peut se dire, c'est une succession de morceaux de concours, sublime morceau de concours,
ben
parce que c'est Mozart, mais en fait, c'est une succession de sentiments, et parfois, sur un sourcil qui se lève, une bouche qui s'entrouvre alors que le personnage n'a pas encore à chanter, en fait, toutes ces choses-là, on voit à quel point il y a un monde de passion et un maelstrom, et combien ça palpite, et ça, une réalisation serrée le fait sentir, et épouse, donc la musique qui, comme vous l'avez dit, est globalement de très très haute qualité.
Oui, parce qu'on ne l'a pas encore dit, c'est Olivier Simonet, qui n'est pas non plus n'importe qui comme réalisateur, qui depuis très longtemps réalise à la fois des documentaires sur le monde classique, mais aussi réalise des captation, disons ça comme ça, d'opéra. Mais c'est vrai que c'est le parti pris, on l'a dit, inverse de celui de François-René Martin pour Moïse et Aaron, mais quasiment aucun plan large. Une caméra, donc, vous l'avez dit, qui est toujours au plus près de l'action. En l'occurrence, l'action, c'est celui ou celle qui chante. Comme vous l'avez dit, c'est quand même une succession de 22 airs. Voilà, 22. Merci pour le compte. 22 grands airs. Alors, du coup, ça donne un montage assez rapide qui multiplie les axes sur l'interprète. Et ça permet, oui, c'est vrai, de goûter le jeu dramatique, notamment Patricia Petitbon. Enfin, il y a quand même des interprètes. Alors, citons-les, il y a Sabine Deviel, il y a Patricia Petitbon, il y a Mirto Papatanasio, il y a Cyril Dubois. Enfin, il y a quand même des gens qui bon, vocalement, sont à des degrés divers, des régales à l'écoute, mais sont aussi des vrais interprètes, Marion Drou. C'est ça qu'on voit aussi grâce à ce DVD.
Ah oui, 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 là, on
très voit, bien dirigé par Clément Hervé.
Petitbon, c'est juste extraordinaire de la regarder chanter.
Incroyable.
Elle a un visage, mais de comment dirais-je, de star. Enfin, c'est magnifique. Elle a toute l'expression en même temps. On a le son,
on a l'image.
Non, c'est vrai. Je dis des choses bêtement, mais
non, c'est
vrai qu'il y a quelque chose. Elle est vraiment bluffante, quoi, bluffante. Et par contre, j'ai trouvé que scéniquement, c'est quelqu'un voilà qui gagne à être vu de près.
Absolument.
Parce que scéniquement, de loin, comme c'était dans la salle. Je trouvais que Deviel, pour moi, était quelqu'un qui était plus investi.
Plus d'expressivité de loin.
Que Sabine Deviel. Voilà, exactement.
Ah oui,
alors que là, Petitbon, c'est vrai qu'elle m'a... Et puis alors, cet art de s'habiller, de se déshabiller, parce que quand même, c'est deux grands airs, c'est une fois elle s'habille, une fois elle se déshabille, et elle fait ça, mais elle, magnifiquement, la manière dont elle empoigne sa robe sur une note tendue, enfin, et elle a vraiment, elle a une forme de génie quand même de la plastique, hein. C'est magnifique.
Emmanuel Giuliani, sous ses interprètes.
Oui, absolument, sur Patricia Petitbon, et puis on le sait que Mozart est son dieu, mais même si on ne le sait pas, ça se sent.
Ah oui.
On voit avec quel bonheur qu'elle soit vraiment dans les airs de grande déploration, quand elle essaye au contraire de reprendre la main sur son destin, ou ces moments de calme. Et, à chaque fois, le plaisir, le bonheur qu'elle éprouve à être traversée de la racine des cheveux jusqu'à la pointe des doigts de pied par cette musique. Et ça, c'est un cadeau que Mozart lui fait et que Mozart nous fait grâce à elle. Et vraiment, on le ressent pleinement. Il faut, je trouve aussi, saluer, surtout qu'il fait vraiment une carrière magnifique dans beaucoup de styles de musique, la performance de Michael Spyres dans un rôle impossible. Et là aussi, c'est un chanteur qui, à la fois, bon, il fait un personnage plus âgé que les autres, puisque c'est le père de... Mais il y a une jeunesse dans sa façon de chanter, dans son regard, dans la manière dont il est aussi à la musique et au drame qui, moi, me touche énormément. Et là, il vient de faire un aîné incroyable à Strasbourg dans les Troyens de Berlioz. Enfin, vraiment, c'est un chanteur absolument formidable.
C'est quelqu'un
très beau
qui est sans filet, parce que là, il a pris des
risseaux incroyables.
Mais c'était très très périlleux. Bon, il a pas tout réussi merveilleusement,
mais il
est complètement dedans.
Ah oui, c'est voilà. Et puis tout le reste du cast. J'ai un petit, disons, bémol vocal pour Mirto Papatanasiou, qui est une splendeur dramatique et physique. Alors vraiment, elle est très très belle. Vocalement, elle est un petit peu plus à la peine.
Un peu en dessous.
Mais je dirais que Mozart l'a un petit peu moins gâté aussi.
Sur le temps des airs,
les airs sont plus convenus, on va dire.
Et elle n'a pas peut-être cet élan et cette. Elle ne domine pas aussi bien le sujet que ses camarades pour justement donner ce
ça
petit
vibre,
surplus.
Absolument.
Voilà, et ce petit frémissement en plus. Mais c'est quand même très beau et tout ça soutenu, on l'a entendu là dans l'air, par une direction palpitante de cœur qui bat de Emmanuel Haïm qui là est totalement à son affaire, comme elle avait été dans la Finta de Giardiniera où elle était prodigieuse.
Donc
le premier Mozart lui va très très bien.
Le premier Mozart lui va extrêmement bien. Dans le Triomphe aussi.
Dans le Triomphe, elle était extraordinaire. Elle est vraiment à un moment de son travail, Emmanuel Haïm, très haut. Depuis un an, deux ans, c'est très
belle
très
maturité,
haut.
Belle maturité, très belle.
Absolument. Bon, là encore,
on peut recommander.
C'est une prédate de Mozart.
D'autant plus que vous allez découvrir un Mozart de 14 ans où il y a déjà en germe pratiquement tout ce qui va suivre.
Oui, enfin ça, alors c'est absolument
14 ans.
Le bac, il l'a, lui.
Il l'a eu depuis longtemps avant. Ouais. Donc, direction Emmanuel Haïm, mise en scène Clément Hervé-Léger, en DVD chez Erato. Il avait été enregistré ce DVD, donc cette production, en février 2016 au Théâtre des Champs-Élysées.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Et le troisième sujet de cette dispute musique, c'est un double CD, Debussy, L'Enfant prodigue, Ravel, L'Enfant et Sortilège, dirigé par Mico Franck avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France, le Chœur et la Maîtrise de Radio France. Quelques vedettes du chant lyrique, Roberto Alagna, Sabine Devielle, encore une fois, Karina Govin, bon, d'autres encore, un disque Erato. Avant d'en entendre un extrait, peut-être quelques mots, je vous fais réviser votre bac, tiens. Quelques mots de présentation de ces œuvres, celle de Ravel, Emmanuel Giuliani, L'Enfant et Sortilège, ah, fantaisie lyrique.
Voilà, fantaisie lyrique, texte de Colette, musique, c'est une des œuvres les plus géniales du répertoire, c'est 45 minutes, même pas. Voilà, on va en entendre un extrait. Il y a tout là-dedans. Il y a une émotion incroyable, de l'humour, les objets inanimés qui ont ô combien une âme, des animaux, un enfant. Là aussi, sur un mode très différent de Moïse et Aaron, mais on revit toute l'histoire de la musique, y compris bien sûr du jazz, du ragtime. Mmh. Tout ça avec un art. On parlait de Mozart. Ravel, c'est exactement ça dans toute son œuvre, et là en particulier, qui ne repasse jamais les plats. Mmh. C'est-à-dire, on saisit quelque chose de génial, on se dit, donne-nous-en encore. Eh ben non, parce qu'il est passé à autre chose, tout aussi génial. Mmh. Et l'enfant et les sortilèges, c'est ça. Le sortilège, c'est de réussir à nous habiter complètement de mille et une couleurs et de mille et un mondes en très très peu de temps. Et à la fin, ben, l'enfant dit maman et on a envie de dire pareil. Enfin voilà, non, bon. C'est un pur chef-d'œuvre.
Bon, je ferai la révision de Debussy après, mais là on a envie d'écouter tout de suite cet extrait de L'Enfant et les Sortilèges. Bon, on laisse Emmanuel Giuliani se remettre de ses émotions pendant que Marie Audroux prend des notes dans son carnet à spirale. Sur ce qu'on vient d'entendre, Marie Aude.
Alors, sur ce qu'on vient d'entendre, en général, hein, sur toute l'œuvre.
Sur l'œuvre, sur cette production, pas sur cet
enregistrement. Là, on a encore un cast très très beau, magnifique. Mmh. Décidément, là, on est gâté aujourd'hui. Et avec un enfant qui ne fait pas l'enfant, qui est quand même qui chante avec sa pleine voix de mezzo, riche, et qui a cette espèce de finesse, de prosodie très 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 finement ciselée, c'est très beau. Et puis cet orchestre du Philharmonique de Radio France qui dont les vents sont juste magnifiques, qui alors j'ai un petit bémol quand même, la direction de Nico Franck, que je trouve qui manque parfois un petit peu de moelleux et de poésie. Notamment le tout début, espèce d'accord, là, on a l'impression, habituellement, on entend plutôt une espèce de décor, pas flou, mais quelque chose qui vibre. Et là, on a l'impression d'avoir des choses très, très alignées, un petit peu froides, je dirais une certaine froideur. Donc c'est un petit peu
trop la structure.
J'ai l'impression qu'il a voulu mettre l'accent sur la modernité de l'écriture de Ravel. Donc sur toutes les choses qui seraient dues après Ravel et au détriment de cette fusion que Ravel opère souvent, une fusion assez poétique des timbres, et là le fait de détacher, de mettre des couleurs
trop analytiques,
trop franches, voilà, peut-être un peu trop analytique pour moi.
D'accord.
Voilà, c'est ce que j'aurais à dire, mais voilà, sinon c'est quand même une très très belle version.
Emmanuel Giuliani, remise un tout petit peu de vos émotions après ce moment final.
Non, mais c'est quand même très, très beau.
Nous sommes d'accord.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec Marie-Aude, en effet, sur le cast, parce que ce sont des voix extrêmement différentes. Chaque intervention, à part le feu, et encore, c'est des interventions extrêmement courtes, donc c'est des choses à prendre au vol, un peu comme une espèce de pointillisme qui crée évidemment un grand motif, mais on a envie de regarder telle touche de jaune, telle touche de bleu, telle touche... Et ça, c'est tout à fait réussi, parce que ces chanteurs sont excellents et ont des timbres et des voix très différenciées. Donc, véritablement, on a tout ce maillage, toute cette tapisserie. C'est vrai que pour l'orchestre, je partage aussi, ça manque un peu, je dirais, d'abandon. Voilà. Donc, il y a en effet ces timbres splendides. Les voix chorales sont très légères, avec peut-être une prise de son un petit peu floue à certains moments, mais une fois que l'oreille est habituée, c'est plaisant, puis ça crée notamment dans la deuxième partie cette ambiance nocturne du jardin. Mais on aurait envie, peut-être comme vous l'avez dit, pour souligner la richesse et la modernité de cette musique, c'était vraiment le parti pris de Nico Franck, mais qui songe un tout petit peu moins aux barres de mesure et un peu plus à la manière dont chaque note est amoureuse de la suivante et lui dit « Allez, viens ». Voilà.
Oh, c'est peut-être... C'est beau.
Bon, je m'arrête
vous
là.
Vous allez coacher Nico Franck.
Oh, bon, j'en suis bien incapable. Mais...
Discuter avec lui.
Mais c'est très beau quand même.
Et c'est un double CD, donc la révision Marie-Aude Roux, Debussy, l'enfant prodigue.
C'est pour ça que je prenais des notes.
Bah, je vois bien, vous êtes dit, ah oh là là, interro surprise,
piéger,
pas tellement surprise.
Piéger, bah voilà.
Scène lyrique, dit Debussy, une cantate, on va dire ça comme ça, en trois parties.
Alors là, pas un enfant, pas de sortilège pour l'enfant, il est prodigue.
Ouais.
Et les choses sont beaucoup moins poétiques. Donc c'est une cantate que Debussy a écrite en 1884 pour le prix de Rome qu'il a obtenu.
Pour piano et voix au départ.
Pour piano et voix. L'année d'avant, en 83, il avait écrit Le Gladiateur.
Mais ça n'avait pas marché.
Ça n'avait pas marché. Donc il est passé du Gladiateur à l'enfant. Et il y aura une tentative, mais que je ne connais pas d'ailleurs, sur le plan du résultat. De remanier l'œuvre en drame lyrique en un acte en 1907-1908. Voilà.
Mais nous n'y étions pas.
Mais voilà, nous n'y étions pas. Par contre, là, on sent tout ce que Debussy... Debussy, il a voulu faire le très bon élève.
Ouais,
là,
c'est
et
ça.
Il a réussi parce que voilà, c'était quelqu'un qu'il fallait surveiller d'après son professeur d'harmonie au conservatoire. Et là, il a bien appris son Gounod, son Delibes, son Massenet. Et voilà, on a une musique... C'est beau, hein, ça s'écoute très facilement. C'est très lyrique. Il y a notamment un air qui pourrait être un tube. Le premier air de Lia, qui est tout, du Massenet, totalement. Et donc voilà, c'était intéressant d'enregistrer cette œuvre avec des gens comme Carina Gauvin, Alania, voilà, on se prive de rien, La Pointe, on a un très beau trio.
Mais là on n'est pas tout à fait dans le pastiche, mais vraiment, vous sentez trop, Emmanuel Giuliani, la composition faite pour plaire et pour avoir le prix de Rome, vous ?
On sent la composition d'un jeune musicien français
qui veut flatter ses aînés.
Ça, je n'en sais rien.
Il n'y a pas trop de Debussy là-dedans,
oui,
quand même.
Oui,
hein.
oui. Qui est encore tout imprégné de la musique qui vient de le précéder. Et, oui, c'est vrai, c'est avant une grande rupture. Là, le côté debussiste, on le sentirait plus dans l'orchestre que dans la partie vocale. Et là, il m'a semblé, je ne sais pas ce que vous en pensez, Marie-Aude, que Mikko Franck était plus à son affaire que dans L'Enfant et les Sortilèges, parce que l'opulence orchestrale, la science des timbres, qui sont déjà tout à fait vraiment dans la lignée de l'écriture française et de l'opéra français, mais déjà avec... Alors, peut-être c'est notre oreille qui sait que déjà Debussy perd sous Claude, qui, donc on est cherche on cherche à trouver, tiens, là, ça m'évoque ceci. Peut-être c'est un travail a posteriori, mais il n'empêche que véritablement, l'écriture orchestrale est très belle et l'a très bien rendue avec cette espèce de fougue qui manque. Enfin, c'est pas de la fougue qu'il faut pour L'Enfant des Sortilèges, mais cette espèce de sentimentalité au très bon sens du terme qui manquait peut-être dans l'œuvre dont nous avons parlé avant. Moi, ce que je conseille aux auditeurs, c'est vraiment ne pas écouter ces deux disques dans la continuité. Oui. C'est trop différent et en effet, on risquerait de dire que Debussy est académique par rapport à Ravel. Enfin, voilà, c'est des univers tout à fait différents. Il faut avoir le coffret, mais il faut mettre du temps entre les deux, me semble-t-il, pour pouvoir rendre suffisamment justice à cet enfant prodigue, dont en effet, l'air Azael, Azael, pourquoi m'as-tu quitté est vraiment très beau et permet un beau soprano lyrique de déployer des grands phrasés, puis une espèce de crescendo comme ça qui est impressionnant et que Karina Gauvin fait fort bien.
Oui, bah, c'est un enregistrement qui était judicieux aussi, parce que c'est vrai que c'était ici, dans cet auditorium de Radio France, qui est à quelques pas de nous, et que dans ces compositions qui nécessitent des grands chœurs comme ça, c'est compliqué, les auditoriums. Je sais que selon où l'on était placé, c'était pas toujours très évident de recevoir l'œuvre tout à fait pleinement. Évidemment, la prise de son et le fait que ce soit maintenant au disque permet de goûter absolument toutes les subtilités. Vous cherchiez un dernier point,
Marie-Audreau? Non, je voyais la symphonie, le final de la symphonie en si mineur, donc toujours de Debussy. Alors là, pour le coup, c'est quelque chose, on peut faire un quiz avec ça, personne ne va trouver, c'est juste pas possible.
Bon.
Là, par contre, la pochette ne donne aucun élément sur le pourquoi, le comment, le quand de l'œuvre.
Non, donc, voilà. On ne sait pas d'où elle sort.
C'est simplement que je crois que Mikko Franck va la donner le 14 juin, je crois, en concert. Bon. Radio France, donc voilà.
Bah, c'est très bien, voilà une bonne annonce que vous faites. Ce double CD, donc, en tout cas, réunit L'Enfant prodigue de Debussy et ce Ravel, L'Enfant et les Sortilèges. C'est dirigé par Mikko Franck avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France, le chœur et la maîtrise de Radio France. C'est sorti chez Erato. Et avant de conclure tout à fait cette émission, le jeu de la dispute, Justine Dibling nous a rejoint pour nous rappeler la question du jeu d'hier au soir et nous en donner la réponse, Justine.
Alors, la question était, le nom du festival littéraire Étonnant Voyageur est inspiré d'un poème de Baudelaire, lequel ? C'était Le Voyage dans le recueil des Fleurs du Mal.
Et on fait gagner ce soir des invitations pour le spectacle Icon de Sidi Larmi Cherkaouir, une place à gagner pour la représentation du 31 mai à 20h30, c'est à la Villette, à Paris. La question, Justine ?
Sidi Larmi Cherkaoui s'est formé sur le tard auprès de deux des plus grands chorégraphes belges, à Partz et au Balaissé de la Baie. Lesquels étaient-ils ?
Votre réponse ainsi que vos coordonnées postales sont à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations sur cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, ainsi que sur laquelle vous pouvez également réécouter nos émissions, vous abonner ou réabonner au podcast de l'émission. Vous pouvez aussi nous écrire sur ce site ou sur la page Facebook La Dispute FC, sur le Twitter Dispute FC. Nous vous donnons rendez-vous demain à 21h pour une dispute consacrée à la littérature en compagnie d'Elisabeth Philippe et Florent Georgesco. À notre affiche, Les Jours Enfuis de Jay McInerney chez L'Olivier, Deux Sœurs d'Elisabeth Hauer chez Rivage et La France contre les robots de Georges Bernanos au Castor Astral. Bonne fin de soirée à l'écoute de France Culture à 22h15. Les discussions du soir et dans quelques instants, le journal de la rédaction.